Le journal Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens ferme ses bureaux à Jérusalem-Est après une nouvelle tentative d'intimidation. Son patron pointe du doigt des extrémistes israéliens selon lui. Reportage dans une minute.
Le choléra, nouvelle menace au Kenya, déjà frappé par des inondations meurtrières. L'inquiétude est grande, surtout dans les bidonvilles de Nairobi.
Seulement un tiers des aires marines protégées dans le monde font en réalité l'objet d'une protection haute ou intégrale selon une étude qu'on vous détaille.
Il y avait 34 listes présentées aux européennes de 2019. Elles devraient être nombreuses également cette année. Et parmi elles, certaines sont souverainistes ou sulfureuses, parfois les deux.
L'UNRWA ferme son quartier général de Jérusalem-Est après une tentative d'incendie. Décision provisoire, expliquait hier le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Après deux incidents en moins d'une semaine, jusqu'à ce que la sécurité soit rétablie. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre à Gaza, déclenchée par les attaques du Hamas sur le sol israélien, les intimidations se multiplient. Mais cette semaine, la violence est d'une toute autre ampleur. À Jérusalem, Farida Noir.
C'était il y a deux jours. Sur son téléphone, Jonathan Foller, directeur de la communication, nous montre ces images. Une foule hargneuse devant le siège de l'UNRWA où il travaille.
Le bruit qu'on entend, des pac 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 comme ça, c'était les pierres qui arrivaient sur le toit de notre poste de garde.
Les manifestants, déchaînés, s'étaient donné rendez-vous devant le grand portail bleu qui protège l'agence. Derrière, les projectiles sont encore là.
Là, on a des cailloux qui font un bon dizaine de centimètres de large, qui doivent peser...
Attendez, on va voir.
Peut-être un kilo. Les gens qui ont lancé des cailloux, des pierres, ils ont cassé le porte-entrée pour les piétons. On nous a lancé des bâtons en bois c'était beaucoup de jeunes. Mais on a eu quand même parmi les manifestants, il y avait des hommes armés. C'était des civils, mais portant des mitraillettes. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu avant. Parce que la présence des individus en armes, on se dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver la prochaine fois?
Une démonstration de force sous les yeux de la police, initié par le maire adjoint de Jérusalem-Ouest, Aryeh King, élu d'extrême droite, dénonce l'UNRWA. Ça fait quelques mois que ces manifestants, des colons, viennent intimider le personnel en jetant de la peinture, en hurlant des slogans, « Abat l'UNRWA, dégagez !» Mais là, il y a une vraie montée en puissance.
Et on voit ça un peu comme des manifestations d'une campagne plus large, qui est un peu le démantèlement de l'UNRWA. Dans cette campagne contre nous, on voit dans le monde de Gaza, en Cisjordanie, on a des problèmes avec la destruction de notre infrastructure. Un autre problème que nous rencontrons, c'est que vous avez vu qu'il n'y a pas énormément de monde dans le bureau. Ça, c'est parce que les collègues qui viennent de Cisjordanie, qui n'ont pas la carte d'identité de Jérusalem, ils peuvent pas venir. Donc, depuis le mois d'octobre, on fonctionne dans une situation un peu comme le Covid. C'est, les gens travaillent de chez eux et ils peuvent pas venir. C'est sûr que c'est très, très compliqué de fonctionner correctement. Il faut pas oublier que notre travail principal, c'est quand même de porter de l'aide aux réfugiés palestiniens.
Malgré cette campagne de harcèlement, d'intimidation, Jonathan Foller et ses collègues ne baisseront pas les bras.
Nous, on ne lâche rien. On a un mandat de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous sommes là, nous partons pas. C'est clair et net pour nous.
Reportage de Farida Noir avec Fabien Gosset. Et ce matin, l'Égypte appelle le Hamas et Israël à faire preuve de flexibilité pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. Le conflit a des répercussions à des kilomètres de là. On l'a vu en France avec par exemple les mobilisations à Sciences Po récemment. La guerre s'immisce également dans la politique britannique et semble influencer les votes des électeurs. C'est ce qu'il s'est passé dans une certaine mesure la semaine dernière. Pendant les élections locales au Royaume-Uni, les musulmans britanniques, historiquement fidèles au parti travailliste, ont plutôt voté cette fois pour des candidats indépendants ou locaux qui ont inclus dans leur campagne la question gazaoui et la cause palestinienne. La correspondance à Londres de Laura Calmus.
Nous ne serons pas réduits au silence. Nous élèverons la voix de Gaza, nous élèverons la voix de la Palestine.
Voici les mots prononcés par Mohsin Ali lorsqu'il apprend jeudi dernier son élection à Gipton et Har Hills, deux quartiers de Leeds au nord de l'Angleterre. Représentant le Green Party, il a rassemblé plus de 3000 votes, 747 de plus que son rival travailliste. Un élu chargé de diverses questions locales, mais qui, comme une quarantaine d'autres élus locaux, a centré sa campagne autour d'une guerre qui se trouve à près de 5000 kilomètres, encourageant Keir Starmer, le chef des travaillistes, à adresser un mot à ceux qui ont délaissé son parti à cause de sa position sur Gaza.
Je vous ai entendu, j'ai écouté et je suis déterminé à répondre à vos préoccupations, à regagner votre respect et votre confiance à l'avenir.
Dans les zones où la population musulmane dépasse 20%, Le parti travailliste a perdu près de 18% de votes. Et pour le porte-parole du Labour Muslim Network, les 4 millions de musulmans du pays attendent de nouvelles promesses.
Nous avons tellement de travail à faire pour regagner la confiance des électeurs musulmans. Et cela commence par demander un embargo immédiat sur les armes à destination d'Israël.
D'autres tirent des conclusions différentes, à l'instar de ce commentateur politique, Johnny Gould.
Cette politique sectaire est désormais une caractéristique majeure de la politique britannique et cela est systématique des ghettos qui ont été créés par le multiculturalisme dans ce pays.
Le parti travailliste est toutefois favori pour les élections législatives. Selon un dernier sondage, il a 30 points d'avance par rapport au parti conservateur au pouvoir.
Laura Kalmus, ajoutons qu'hier soir à Malmö, en Suède, Israël s'est qualifié pour la finale de l'Eurovision. Elle aura lieu samedi. Plus tôt dans la journée, près de 12 000 personnes ont manifesté dans la ville contre la participation de l'État hébreu. Le général Mahamat Debi a été déclaré vainqueur de la présidentielle au Tchad hier. Il a pris le pouvoir il y a 3 ans à la tête d'une junte militaire. Des militaires qui ont tiré en l'air à N'Djamena à l'annonce de sa victoire tirent de joie, mais aussi manifestement pour en dissuader certains de se rassemblés. Son rival, le Premier ministre, conteste ses résultats. Il n'y a pas qu'à Mayotte que le choléra se propage, faisant déjà dans le département français un mort, un enfant de 3 ans. Un drame terrible, quelque part un échec, a réagi le ministre de la Santé, Frédéric Valtou, en visite sur place. Au Kenya, confronté à des inondations dévastatrices avec un lourd bilan de 257 morts, voilà qu'une nouvelle menace inquiète les autorités, le choléra donc, qui se répand via des aliments ou de l'eau contaminée. De nouveaux cas ont été enregistrés à Nairobi, Alban Tiroir.
La ministre déléguée à la Santé a prévenu cette semaine. Le Kenya pourrait faire face à un désastre si la situation n'est pas contenue à temps. 44 cas de choléra ont été dénombrés dans le comté de la rivière Tana, une région de l'est du Kenya parmi les plus touchées par les inondations. Et ce, alors qu'une soixantaine d'établissements de santé ont été endommagés par les fortes pluies à travers le pays, selon le gouvernement. La maladie est donc aujourd'hui une source d'inquiétude de santé publique pour Georges Wambugu. Il est en charge des activités médicales pour Médecins Sans Frontières au Kenya.
Les violentes inondations ont forcé des déplacements vers des camps. Ces camps sont surpeuplés, les populations qui y vivent n'ont pas d'accès à une eau potable. Certains n'ont pas d'accès à une nourriture saine, d'autres n'avaient pas de nourriture du tout. Certains camps ont de mauvaises installations sanitaires qui ne sont pas propres ou se retrouvent vite bloquées. Il y a peu d'endroits pour se laver les mains. Ces conditions prédisposent les populations à attraper le choléra.
L'inquiétude est particulièrement élevée dans les bidonvilles de Nairobi, où plusieurs milliers de personnes vivant en zone inondable se sont retrouvées à la rue après avoir été évacuées, parfois de force, par les autorités qui ont détruit des habitations. Le gouvernement a annoncé surveiller de très près les développements des cas de choléra, d'autant qu'une autre maladie inquiète également. Il s'agit du paludisme, les eaux stagnantes pouvant encourager la reproduction des moustiques.
Le Brésil, touché aussi par des inondations meurtrières, pense à la reconstruction. Le gouvernement a promis hier de débloquer environ 9 milliards d'euros pour l'état du Rio Grande do Sul. Au moins 107 personnes sont mortes et plus de 700 blessées. Inondations régulières également à Jakarta, ville aussi surpeuplée. Le président indonésien veut donc déplacer la capitale à Nusantara, qui deviendrait une ville moderne à zéro émission, selon les autorités. Mais des habitants et des ONG environnementales craignent une dégradation de l'écosystème déjà fragile et des expropriations de locaux. Les populations autochtones sont les plus vulnérables, raconte Mera, membre d'une ONG locale, spécialiste des exploitations minières sur l'île de Bornéo.
Par exemple, pour les locaux ici, pour les communautés autochtones, les Baliques, on va couper leur lien avec la forêt et la rivière. Vous savez, ils ont une relation avec la rivière qui n'est pas qu'une histoire de consommation de poissons. C'est une rivière historique. Donc si les autorités font aboutir ce projet de barrage, ça va forcément affecter la population.
Est-ce que vous pensez que les autorités peuvent encore faire demi-tour et changer d'avis sur ce projet ?
Si vous voulez construire une grande capitale, vous avez besoin, en tant que gouvernement, des investissements, et surtout des investissements étrangers. Et les investisseurs étrangers doivent savoir que derrière ce projet, il y a des pertes, des dommages, il y a une souffrance du peuple indigène. Ils doivent savoir que le peuple de la rivière devient une victime de ce projet gigantesque et que sa voix n'est pas entendue par le gouvernement.
La nouvelle capitale indonésienne au cœur du débat environnemental. C'est un grand reportage signé Juliette Pietraszewski à écouter ce soir sur France Culture. Rendez-vous à 17h.
France Culture, il est 8h10, suite du journal Margot Delpierre, et il est encore question d'environnement avec cette étude coécrite par des chercheurs du CNRS. Seulement un tiers des aires marines dites protégées le sont réellement.
Étude publiée hier dans la revue Conservation Letters. La communauté internationale s'était fixée comme but de protéger 30% des océans d'ici à 2030 pour y restaurer la biodiversité. Des aires marines protégées, il y en a 18 000 dans le monde, mais en réalité, leur protection est loin des objectifs fixés et c'est en grande partie dû à un manque de réglementation, Estelle Caméraire.
Selon l'étude, pour vraiment protéger une zone marine, il faut le faire intégralement. Les chercheurs du CNRS ont analysé le niveau de protection de 90% des aires marines déclarées comme protégées dans le monde. Joachim Claudet, qui est le co-auteur de l'étude, a réalisé que les États ne gèrent pas la protection de certaines zones.
Un quart de ce qui est déclaré par les pays n'est même pas mis en place. C'est-à-dire que ce sont des aires marines protégées qui figurent dans cette base de données, qui sont comptabilisées pour les cibles des États, mais elles n'existent pas sur l'eau, c'est-à-dire que il n'y a pas de texte juridique, quelles qu'en soient les réglementations, quel qu'en soit le niveau de protection, elle n'est pas mise en œuvre.
Les scientifiques se sont rendus compte d'un autre point inquiétant, des aires marines protégées sont menacées par des activités industrielles qui ne sont pas du tout régulées.
Les activités industrielles sont non compatibles avec la conservation de la biodiversité. Donc ça veut dire, même dans le plus faible niveau de protection, il ne doit pas y avoir d'activité industrielle. Ça peut être de la pêche industrielle, les activités pétrolières, ça peut être de l'aquaculture à grande échelle. Et également, quel que soit le niveau de protection, donc même dans le niveau de protection le plus faible, il ne peut pas y avoir d'activités de pêche, donc d'extraction, qui ne sont pas sélectives et qui peuvent endommager les habitats.
On observe donc que 60% des zones déclarées comme protégées ne peuvent pas l'être dans les conditions actuelles. Les chercheurs appellent les États à mieux réguler les activités, mais surtout à faire preuve d'honnêteté et à comptabiliser que ce qui est vraiment mis en place. Par exemple, la France indique que la mer Méditerranée est protégée à 60%. En réalité, selon les régulations actuelles, ce chiffre devrait être réévalué à hauteur de 0,1%.
Estelle Caméraire. Deux policiers ont été grièvement blessés par balle hier soir dans le commissariat central du 13e arrondissement de Paris. Un homme qui avait été interpellé pour l'agression d'une femme s'est emparé de l'arme d'un fonctionnaire. Trois enquêtes sont ouvertes, dont une pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le gouvernement et la majorité se mobilisent à un mois des européennes. Le Premier ministre Gabriel Attal était en Bretagne hier pour la Journée de l'Europe. Il est aujourd'hui attendu à La Rochelle pour une cérémonie de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Chaque journée compte alors que le RN semble largement favori. Les partis ont commencé à déposer leur liste au ministère de l'Intérieur et comme en 2019, il devrait y avoir de nombreux candidats, pas tous connus, beaucoup aussi de petites listes souverainistes, Antoine Marette.
Sulfureuse ou souverainiste, parfois les deux en même temps, c'est le cas de la liste des patriotes menée par Florian Philippot. L'ex-FN avait tenté de surfer sur le mouvement des Gilets jaunes, puis sur celui des vaccino-sceptiques. Il se concentre désormais sur le Frexit.
Tous ceux qui vous font des promesses tous les 5 ans aux élections européennes de tout changer ne le peuvent pas en restant dans l'Union européenne. Et en réalité, vous proposent simplement de repeindre les barreaux de leur prison en vert, en rouge, en rose, en bleu marine ou en bleu reconquête. Moi, je veux quitter la prison. Je veux que mon pays puisse, en tout domaine, être libre et indépendant de ses choix, ce qui est strictement impossible quand on propose de rester dans l'Union européenne.
Sur ce créneau du Frexit, un autre candidat tente de faire entendre sa voix. François Asselineau, de l'Union Populaire Républicaine.
Essayez de trouver sur la scène politique française un seul autre responsable politique qui, depuis 17 ans, non seulement dit toujours la même chose, mais dont toutes les analyses et toutes les propositions se sont révélées exactes. La meilleure preuve que je ne vais pas changer d'opinion, c'est que je l'ai fait au pire moment de proposer la sortie de l'Union européenne. Maintenant, tout le monde commence à y penser.
Et effectivement, une troisième liste se réclame du souverainisme. Elle est menée par le chanteur Francis Lalanne. Francis Lalanne qui réclame une liste d'union des souverainistes.
Si messieurs Asselineau et Philippot continuent à faire la sourde oreille et font passer leurs petits intérêts politiciens avant l'intérêt supérieur de la nation et continuent à refuser l'union comme deux coqs qui se disputent dans une basse-cour, eh bien il faut que les Françaises et les Français qui sont souverainistes sachent qu'il y a une liste d'union des voix souverainistes. Et cette liste d'union, c'est France Libre.
Et sur cette liste menée par Francis Lalanne figure notamment le polémiste Dieudonné Mbala Mbala, condamné à de multiples reprises pour ses dérapages antisémites.
Antoine Marette, Météo France prévoit du soleil quasiment partout aujourd'hui. 23 degrés cet après-midi à Reims et Paris, 24 à Brest, Lyon et Montpellier, 26 degrés à Bordeaux.